Elle est blessée d'une grande blessure. La Vierge, la fille de mon peuple. Elle est blessée d'une grande blessure. C'est la fille de la Vierge, la fille de mon peuple. Maria, Marie de Nazareth, on dit qu'elle a été conçue à Jérusalem. Quand on va à Jérusalem, sur l'aile gauche du temple, là on vénère encore la maison où elle a été conçue. Le prophète Daniel reçoit de l'ange Gabriel que sur l'aile gauche du temple, il y aura la dévastation, l'abomination, le sacrilège universel. Ça se situe à peu près, il y a le temple de Jérusalem et le côté gauche du temple et voilà. Et de l'autre côté, donc du mur du temple, il y a l'endroit où se trouvait la maison de Anne et Joacha. Enfin, là où la Vierge a été conçue. Ils n'habitaient pas à Jérusalem, mais ils habitaient à Nazareth. Et le Fils de l'homme, enfin, le Messie en fait, le Messie, le Christ, le Messie d'Israël, qui était la personne messianique, là, c'était l'enveloppant vivant et glorieux du futur. De l'incarnation future du Messie. Mais il faisait l'objet de l'écoute de tout Israël. C'est vrai, ça avait commencé avec Abraham, mais avec Moïse, et il s'était rendu visible, le Messie. Il s'était rendu visible sous forme de gloire, sous la forme d'un fils d'homme. C'est la tradition des nations d'Israël qu'il se rendait visible et qu'il parlait face à face, le Messie, avec Moïse. Et Moïse, et puis tous ceux qui étaient enveloppés de cette gloire qu'il voyait quand même, il n'était pas comme Moïse qui le voyait, puisque il était devant eux, était derrière eux, et ils se déportaient en dessous d'eux pour traverser les forces contraires de la mer Rouge. Pas seulement de la mer Rouge terrestre des Égyptiens, mais aussi traverser, enveloppé, porté comme par un ange, au travers de la mer Rouge spirituelle, du mauvais. Il n'était pas seulement visible, il y avait aussi le bruit de sa voix. C'était le Fils de l'homme. C'est de là que vient l'expression le Fils de l'homme. Le Messie, le Christ, s'est rendu visible à tous les temps. Et il a jeté dans la terre, c'est-à-dire au milieu du monde, il a été jeté dans la terre, comme dit Moïse, au principe du monde, à cause de la possibilité qui avait été donné à Satan de séduire les hommes. Alors, dans le principe de la création de l'homme, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu a été jeté dans la terre. Et le Verbe de Dieu, la vérité toute brûlante de Dieu, a été jetée dans la terre dès le départ, dès le principe. Le Messie, il est tout de suite, il a tout de suite été dans le Fils de l'homme, il a tout de suite été jeté, prédestiné à la croix, prédestiné à la rédemption. Et toute la loi d'Israël, tout le peuple de Dieu, marche à travers le monde spirituel du mauvais, en écartant les océans. Impossible à écarter du mal. Le temps est pris par une espèce de pression très forte pour noyer l'humanité tout entière dans l'esprit de Satan. Mais l'homme a toujours été libre de ne pas pécher parce que le Messie était dans la terre. Alors, il y a toujours eu le peuple d'Israël à traverser la mer Rouge. Et la nouvelle traversée de la mer Rouge 2000 ans après sa résurrection, après son incarnation, sa résurrection, la nouvelle traversée de la mer Rouge s'opère. Elle devient de plus en plus concrète, elle devient de plus en plus spirituelle. Cette traversée nouvelle de la mer Rouge, cette pénétration dans le rocher qui s'est brisé en deux pour faire jaillir au fond de la terre les fontaines jaillissantes de la vie, de l'amour de Dieu à l'état pur. La virginité immaculée de la Vierge, la fille de mon peuple. Et donc quand Marie a été conçue à Jérusalem, puis ils sont partis à Nazareth. Et c'était la fleur du peuple d'Israël. Marie, depuis sa conception, on le sait très bien que c'est depuis sa conception aujourd'hui. Et même, si on peut dire, enveloppée par une grâce prévenante, elle est présente à la sagesse créatrice de Dieu, dans le Messie qui est jeté dans la terre. Ça Moïse le précise bien, ça, dans son enseignement mystique, communiqué par les nazis d'Israël. Marie met le peuple de Dieu tout entier, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple de la grâce de Dieu, le peuple de la grâce messianique. Et ben, le Fils de l'homme a bien jeté dans cette terre-là de quoi faire pousser des enfants. Les enfants de la grâce. C'est ça ce que dit Jésus. Les bons grains, ce sont les fils du royaume. Les enfants du royaume. Et Marie, les enfants du royaume de Dieu, ils n'ont qu'une seule intériorité, si je puis dire. C'est celle de la foi. Ils croient parce que ils entendent Dieu qui parle à travers le Fils de l'homme dans son Messie. Et donc ils aspirent non seulement ils aspirent, mais ils ont à l'intérieur d'eux une espèce de toucher intime du Christ, du Messie, du Fils de l'homme. C'est Elohim, Adonai, c'est la donne. C'est lui qui les porte à travers le monde des ténèbres. Le monde de la cruauté, le monde du péché, le monde du mauvais, le monde de Moloch, le monde de... Alors, ils sont toutes écoute. Ils obéissent au commandement de Dieu. En tout cas, son premier mot. Écoute, écoute-le. Le semeur, c'est celui, c'est le Fils de l'homme qui sème la parole de Dieu. Écoute-le. Et donc Marie, aussi, depuis sa conception, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Elle est comme le premier fruit du temple construit. Troisième temple construit de Jérusalem, puisqu'elle était conçue sous la porte dorée, hein. Puis elle va être transportée de l'aile gauche du temple jusqu'à Nazareth. Mais depuis sa conception, sa vie intime intérieure est un gémissement ineffable du Saint-Esprit. Elle a la plénitude de grâce 9 mois avant de naître. Et cette plénitude de grâce fait que elle a l'Esprit Saint dans la science de Dieu qu'il partage aux hommes, dans la grâce du Fils de l'homme venant sur les nuées. Elle a l'esprit d'intelligence, la pureté pour toucher la substance sans en voir les accidents, sans en voir les rayonnements. Elle est pénétrante de la miséricorde du Messie. Elle aime le Messie. Elle donne sa vie au Fils de l'homme. Elle est engloutie d'un amour fou du Fils pour le Père, du Père pour son Messie et pour le Fils de l'homme. Et elle va vivre comme ça. La grâce d'Israël. Elle est Israël. Israël. C'est le peuple de Dieu qui vit de la grâce du Christ. Et quand elle a 13 ans, elle est toute habitée par le désir éternel de Dieu de venir s'incarner pour que le Messie puisse parler. Pour que le Messie puisse s'exprimer dans le langage de la croix. Mais elle a la plénitude de l'esprit de crainte de Dieu depuis 13 ans, qui n'a cessé d'augmenter, de se surmultiplier dans des transsubstantiations mystiques continuelles du ciel à la terre, de la terre au ciel. Et dans son humilité, c'est-à-dire l'esprit de crainte de Dieu, c'est le comble de l'humilité. Elle ne se regarde jamais elle-même, elle ne voit pas les profusions que l'amour de Dieu fait déborder d'elle. Elle en voit les débordements, mais elle ne sait pas qu'il déborde d'elle en tant qu'elle est celle qui est désignée par la parole du Verbe de Dieu. La parole du Verbe de Dieu désigne la Vierge. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple. Le peuple d'Israël a fait naître une enfant, a fait naître une conception, a fait naître une virginité incarnée, qui déborde tellement d'elle-même qu'elle est entièrement aspirée par ce débordement. Ce débordement, c'est... l'incarnation du Christ. Dans le sang de la rédemption universelle. Dans la destruction du mal. dit le prophète Isaïe, réplé vite, Timor Domini, l'esprit de crainte, son humilité est plus que totale, puisque elle a toutes les propriétés des attributs divins. Donc elle se regarde absolument pas elle-même, et elle espère pouvoir rendre service. Elle espère pouvoir être présente, l'esclave de celle qui doit porter un jour le Christ, le Messie d'Israël. Elle n'a jamais pensé une seule fois. C'est à l'instant que c'était elle. Elle ne se regardait pas. C'est pour ça d'ailleurs, c'est à cause de cette humilité-là, mais elle ne vivait que de ça. Et elle savait, ça oui, elle le savait, parce qu'elle écoutait. Elle savait que l'heure était arrivée pour le Verbe de Dieu jeté dans la terre, glorieusement présent et victorieux du mal dans la rédemption d'Israël. Elle savait que l'heure était arrivée, donc. Mais elle ne savait pas que c'était... C'est pas exactement dire qu'elle ne savait pas. Elle était toute... déchirée. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette parole du prophète que nous venons de lire en Jérémie. Elle est blessée d'une grande blessure. Elle était une blessure béante. Elle était co-rédemptrice. Elle était au service. Elle était esclave. La plus esclave de toutes les esclaves au service de celle de la virginité qui devait engendrer par l'opération de source des sept dons du Saint-Esprit, le Christ Jésus. C'est pour ça qu'elle a été, quand l'ange Gabriel est apparu, elle a eu cette confirmation quand aussi sous l'aile gauche du temple, elle est passée avec Joseph pour le premier mariage. Elle a eu cette confirmation qu'elle devait se cacher encore plus pour être encore plus au service. Je suis la servante, en grec, je suis l'esclave du Seigneur. Mais quand l'ange Gabriel lui apparaît, comme il est apparu auparavant, pour parler de l'aile gauche du temple qui devait être dévastée, elle a été étonnée en disant, c'est toi, tu es pleine de grâce, et tu engendreras le Messie. On l'appellera fils de l'homme, fils du Très-Haut. Et elle en est toute étonnée. Pourquoi? Parce que la blessure de la Vierge d'Israël est trop grande. Elle est co-rédemptrice du monde. Eh bien, en même temps, quand l'ange Gabriel lui apparaît, après être apparu au prophète Daniel, et le prophète Daniel, recevant, parce qu'il écoutait aussi, qu'était le grand principe, avant, pendant et après, au principe du monde et à l'accomplissement du monde, le principe de la Vierge, la source de la rédemption du monde, la source de l'incarnation et la source de la glorification des trois personnes de la Très Sainte Trinité, le principe. Se trouve sur l'aile gauche du temple. Et moi, je trouve magnifique le principe de la foi qui dit que quand tu entends une parole, est indivisible. Donc, quand, dans par de l'abomination de la désolation, le Sikutsi Meshemem, il est placé, il est sur l'aile gauche du temple, précisément derrière le mur infranchissable où l'Immaculée Conception a été incarnée, a trouvé son incarnation en Marie. La plus grande dévastation de la Corée rédemptrice, c'est l'abomination de la désolation. Voilà la révélation de l'ange Gabriel. Et elle est dans sa personne, la dévastation elle-même, dévastée de Sikutsi Meshomem, le comble. Et c'est parce qu'elle est conçue comme étant le comble de la dévastation. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la Fille de Dieu, qu'elle pourra entendre la parole, le Verbe de Dieu s'exprimer, la parole du Père, le souffle du Saint-Esprit, survenir en elle pour qu'elle puisse entendre que c'est dans cette blessure surnaturelle, quasi incréée. C'est dans cette blessure seule que Dieu veut jeter sa semence pour concevoir Jésus. Et ça, c'est le secret de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception est Immaculée Conception parce qu'elle est corps rédemptrice. Parce qu'elle est dans sa conception en infinité. Avec la dévastation substantielle de l'union hypostatique désirée, le Fils de l'homme devient le Fils de Dieu. À travers cette immaculée conception. Et devenant le Fils de Dieu, il n'y a qu'un seul Fils de l'homme, c'est Dieu vivant, éternel et incréé, devenant Fils de Dieu par Marie. Elle devient mère de tous les fils de Dieu. Être Fils de Dieu dans l'incarnation, la participation au corps et au sang du Fils de l'homme, donné en nourriture, pour rassasier l'amour de Dieu à jamais. C'est plus que la grâce. Bien, lorsque par la foi nous sommes incorporés au corps du Fils unique de Dieu, nous devenons nous-mêmes des engendrés de Dieu. Si la foi va jusqu'à la substance et à la surabondance et à l'au-delà de ce qu'elle est, lorsqu'elle pénètre à l'intérieur de Dieu, l'objet de la foi, c'est Dieu lui-même dans ses débordements intimes, à l'intérieur de la très sainte Trinité. Alors la grâce sanctifiante fait que nous sommes des engendrés de Dieu, des compagnons du Fils de l'homme, des disciples du Christ, mais des engendrés de Dieu avec lui. C'est pour ça que quand on dit voilà, nous sommes dans un état de grâce, la grâce sanctifiante qui est en nous, qui nous envahit, qui nous imbibe, qui nous rayonne, qui nous imprègne, qui nous caresse de l'intérieur, et qui n'a qu'un seul but, c'est d'aller jusqu'au bout de cette caresse messianique de grâce, de sainteté, du Fils unique de Dieu dans l'Immaculée Conception, pour qu'elle déborde jusque dans la nature humaine tout entière, de tous les temps. cette grâce sanctifiante, et l'Église, la foi, le credo, nous indique que elle n'est pas seulement un état, le changement d'un état de péché à un état de non-péché. La grâce sanctifiante a pour propriété de nous transplanter, de transplanter notre conception, notre naissance, notre vie et notre mort, la transplanter à l'intérieur de la vie surnaturelle. Et elle a une deuxième propriété, la grâce sanctifiante, c'est qu'elle fait que la lumière qui fait que j'existe, elle subsiste dans une autre personne que moi. La grâce sanctifiante a pour propriété, d'après le credo de l'Église apostolique et de la Jérusalem dernière, de nous faire subsister dans le Verbe de Dieu. La subsistance dans le Verbe de Dieu est une propriété de la forme substantielle de la grâce sanctifiante. Donc quand je respire, quand j'écoute la vérité qui s'est introduite dans le monde de l'existence des choses que je suis, parce que je suis bien dans le monde créé par Dieu et dans les mains du Créateur, et que je vois l'abomination de la désolation et son effet à l'intérieur de l'Immaculée Conception et de Marie et de sa sponsalité, et les effets de cette abomination dans l'union hypostatique des cieux de Jésus, je comprends que la grâce sanctifiante me fait subsister dans le Verbe de Dieu et m'aspire hors de moi-même et dans les plus grandes profondeurs de moi-même en même temps pour vivre quelque chose qui va plus loin même que la subsistance par la grâce dans le Verbe de Dieu. La formation de la vie divine de Dieu dans ceux qui ne l'ont pas. C'est notre plus grande gloire. Et c'est ça que le pape a institué depuis 800 jours à travers le miracle de l'au-delà, de la résurrection et de l'ascension dans l'hostie, dans le sacrifice, dans le don. Nous qui sommes des vivants incarnés, subsistant dans l'intimité divine du Verbe de Dieu, nous sommes encore des personnes créées par Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit que la grâce sanctifiante qui nous fait subsister dans le Verbe de Dieu, c'est un habitus antitatif. C'est un habitus, c'est un torrent profond qui porte notre substance, mais qui reste une propriété. Ça reste un avoir, c'est un trésor. C'est la fameuse perle, c'est un trésor prodigieux dont je suis le propriétaire. Mais avec ce propriétaire, il faut que je lui donne son fruit. Et ce fruit, c'est d'être associé à Marie, associé à Jésus, dans l'au-delà de la résurrection, où il s'est assis à la droite du Père, pour par la foi, se dépassant elle-même et dépassant elle-même les profondeurs, les profusions et les exigences de la grâce sanctifiante dans notre union avec la personne du Verbe de Dieu en, lui, en qui nous subsistons, aller encore plus loin pour produire dans le mystère de la croix glorieuse, dans la Jérusalem dernière, la vie divine partout où elle n'a pas été encore reçue. Et c'est pour ça que quand le pape dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, donc maintenant, dans l'Eucharistie, Jésus sur la terre, infailliblement, engage l'autorité du Père et du Saint-Esprit dans la transsubstantiation pour que Marie soit identifiée comme Mère de Dieu. Soit identifié à cette transsubstantiation avec le Père pour produire à l'intérieur de notre grâce sanctifiant dans la subsistance du Verbe de Dieu, pour produire quelque chose qui va plus loin que la subsistance dans le Verbe de Dieu. Elle engendre, elle est, il y a dans cette transsubstantiation une multiplication de l'engendrement un créé éternel du Père vis-à-vis de l'épousée, vis-à-vis du Verbe de Dieu, vis-à-vis de Dieu dans sa spontanéité, de Dieu dans, son, dans le monde incréé de sa propre existence de personne divine. Il y a une force, une puissance d'engendrement incréé dans le monde quasi incréé de la Jérusalem dernière. Il va y avoir une identification. C'est éternellement et en une seule fois, bien sûr, que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Mais l'engendrement éternel de Dieu, la conception éternelle de Dieu, est avant tous les siècles et avant la création du monde. Elle fait le tourbillon de la gloire et de la béatitude. Et de l'existence de Dieu lui-même, c'est son trésor. C'est sa gloire, c'est sa glorification. C'est son éternité. Mais dans la transsubstantiation, à un moment donné, il faut que la transsubstantiation dans la communion, en ceux qui ont la grâce et subsistent dans le Verbe de Dieu, aille plus loin encore, puisqu'il va falloir que, à travers la messe de la Jérusalem dernière, le monde incréé du Père soit rassasié, comblé et glorifié. Le pain de la vie doit rassasier le Père à jamais. Et quand on dit, quand le pape, quand on dit que Marie, mère de l'Église, dans la transsubstantiation, la multiplication de l'engendrement de Dieu à l'intérieur de Dieu, qui est éternel, devient, se multiplie. À chaque transsubstantiation, dans chaque communion, c'est une multiplication d'un créé dans le monde créé qui est le nôtre, et qui fait qu'on va plus loin que celle, qu'on va beaucoup plus loin que la grâce sanctifiante. On va beaucoup plus loin que la subsistance dans le Verbe de Dieu, puisqu'on est les enfants du Fils de l'homme. Mais beaucoup plus loin, puisqu'on est engendrés éternel de Dieu dans l'union hypostatique désirée de Jésus et dans la transverbération universelle de la personne même de Dieu dans l'au-delà de cette union hypostatique désirée. Il s'est assis à la droite du Père au-delà même de la résurrection. La Jérusalem dernière, c'est l'enfant, c'est l'engendrement éternel de Dieu dans sa rédemption. Elle est blessée d'une grande blessure, la Vierge, la fille de mon peuple. C'est pour ça que le pape a décidé que maintenant la messe, elle devait se dire de la manière la plus profondément cachée possible. Elle devait se dire, c'est Saint-Esprit qui a décidé, le pape lui c'est, n'est qu'un instrument. Hein. Elle devait se dire à l'intérieur de la paternité agréée de Dieu. Elle devait se dire au-delà d'Anastase. Elle devait se dire dans l'agneau de Dieu. Elle devait se dire dans l'universalité catholique de tous les engendrés de Dieu. Et donc quand le Dieu, le Fils de l'homme est offert à Dieu le Père pour que dans l'hostie, il soit le rassaisiement éternel et complet et entier pour les et pour les siècles des siècles de Dieu le Père. Et à jamais, il faut qu'il y ait dans la transsubstantiation un engendrement. Marie a engendré Dieu lui-même. La Vierge, la fille de mon peuple, à cause de son existence de corps rédemptrice, médiatrice, non seulement de toutes les grâces, mais aussi de la grâce du mystère, de l'engendrement de Dieu, dans sa chair maternelle. Et sa chair maternelle est une chair de maternité d'engendrement de la personne de Dieu lui-même. Et cet engendrement s'opère de manière transsubstantielle, réelle, dans chaque Eucharistie. La Jérusalem dernière, c'est le cri en même temps de la Vierge, la fille de mon peuple blessée d'une grande blessure. C'est la transverbération qui permet au Verbe de Dieu, au Fils unique de Dieu, et à l'épousée de Dieu, le comble de la consolation du Père, de prendre sa place à l'intérieur du monde éternel et incréé de Dieu, dans l'hostie. C'est pour ça que nous nous offrons nous-mêmes, parce que ce n'est plus nous qui nous offrons nous-mêmes, mais c'est Dieu qui s'offre lui-même à Dieu, sans voile désormais, en raison de ce que le Saint-Père a mis, a établi dans le monde nouveau de la Jérusalem dernière. Nous vous offrons le corps, le sang, l'âme, l'humanité anéantie, mollet, brûlée en holocauste, la divinité toute pure de l'union hypostatique des cirés de Jésus, et encore plus avant, la transverbération de la création tout entière. Cette transverbération de la création tout entière qui engendre le Dieu incréé dans le monde quasi incréé de la Jérusalem dernière, c'est par la foi que nous en sommes les récepteurs. Pour la destruction, du mal. Et c'est sûr que l'abomination de la désolation qui prend sa forme aujourd'hui et demain sur la terre à cause de Lucifer vise pas seulement la conception, pas seulement l'immaculée conception, pas seulement l'incarnation, mais aussi la personne même incréée de Dieu il et la ressemblance sans voile. Voilà, c'est pour ça que c'est l'ange Gabriel précise bien sur l'aile gauche du temple. Et par la foi, lorsque nous vivons l'Eucharistie, nous repoussons hors du temple de Jérusalem la présence insupportable du démon et des écoutes si méchants et misères de ce monde. Ils ont honte à cause des enfants qui sont des engendrés de Dieu, sont repoussés. Et les engendrés de Dieu remplissent par surabondance, par surabondance créée, quasi incréée et incréée, remplissent le champ intérieur de la paternité intime de Dieu, avec des consolations qui sont celles qui appartiennent à la personne même de Dieu. Et quand nous habitons précisément le Saint des Saints, désormais ouvert, largement ouvert, eh bien c'est à la honte de ceux qui l'ont voulu. Et ils sont obligés de se cacher, comme dit le prophète Ézéchiel, derrière le mur. Pendant que nous sommes marqués du sceau du sang du Christ, lequel nous marque du sceau de la royauté du Fils de l'homme venant sur les nuées, lequel nous marque du sceau du Saint-Esprit, qui la dilatation de l'Immaculée Conception dans sa royauté de fécondité divine toute pure. Voilà les trois sceaux qui marquent notre front et qui marquent le front des conçus, dévastés, et qui sont comme Marie, la virginité. La blessure virginale que le peuple de Dieu a engendrée pour la fin.